donc l'ambulancier. C'est du rock électro en français et j'ai eu la chance plein de fois de pouvoir être diffusé dans cette belle émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de différent. Je vais vous parler de livres que j'ai sortis le 14 novembre dernier. Il s'appelle Joy Division Closer et comme son nom l'indique, c'est une analyse, c'est un livre sur le deuxième album du groupe Joy Division. C'est pas mon premier, ça fait voilà un petit moment que j'écris dans la très belle collection Discogonie de l'éditeur Densité. Et donc c'est la troisième fois, après avoir écrit sur In Utero de Nirvana et l'album blanc des Beatles, que j'ai la chance de pouvoir parler de groupes qui me passionnent, parler d'albums qui me passionnent. Et il se trouve que cette fois-ci, pour pouvoir traiter de Joy Division dans la collection, l'éditeur m'a proposé qu'on s'intéresse au deuxième album, donc pas le premier, pas Unknown Pleasures, qui est sans doute le plus connu de la carrière du groupe, carrière très très courte d'ailleurs, hein, Joy Division, pour ceux et celles qui ne connaissent pas assez, c'est vraiment grossièrement de 1976 à 1980, donc une carrière très très courte. Et donc je me suis donc plutôt intéressé au deuxième album, le deuxième album qui, voilà, si vous ne le savez pas, a la particularité entre autres d'être sorti après la mort de son chanteur, donc Ian Curtis. Ian Curtis qui donc est un des grands destins tragiques du rock, étant donné que voilà, c'était une personnalité voilà, très, très fragile et assez particulière, assez singulière. Un très très grand auteur aussi de textes, un très grand chanteur de punk aussi, mais également une personne voilà, qui était dépressive et qui malheureusement a mis fin à ses jours juste 2 mois avant la sortie de l'album. Donc c'est dans ce contexte assez particulier en fait qu'il faut parler de Closer, et pendant presque toute l'existence hein, de Closer depuis sa sortie, ça a été très difficile pour voilà, en général dans les articles, dans les livres, de ne pas parler de toute cette ambiance de mort, toute cette ambiance assez funéraire, d'autant que la pochette de l'album est une tombe, voilà, c'est la photographie d'une tombe de la fin du 19e siècle, voilà, dans un très grand cimetière italien, avec des tombes monumentales très très dramatiques, voilà, et la photo n'aide pas donc à ne pas penser à ça, donc toujours une ambiance très très funéraire, et aussi une musique, la musique de Joy Division est quand même plutôt sombre. Le premier album, Unknown Pleasures, avait posé des bases de ce qu'on allait appeler par la suite le post-punk, c'est-à-dire quelque chose qui allait dévier du punk, qui allait s'avérer faire plus de recherches, on va dire, plus de recherches techniques, plus de recherches audio, pour créer vraiment des paysages, pour créer des chansons avec de l'espace, qui n'aide donc pas se limiter à être des accords et des slogans, voilà, crachés comme pouvaient le faire d'ailleurs très très bien les Sex Pistols, qui sont une des grandes influences de Joy Division. Donc voilà, il fallait parler de ce livre, c'était en tout cas ce que j'avais envie de faire le plus possible, en mettant de côté cette ambiance, en mettant de côté ce contexte un peu difficile, pour parler surtout du groupe en tant qu'entité, pour parler du groupe en tant que voilà, unité créative, avec la façon dont ces 4 membres, donc Ian Curtis, Bernard Sumner le guitariste, Peter Hook le bassiste et Stephen Morris le batteur, ont réussi à créer un son vraiment très particulier qui s'est affirmé dans ce deuxième disque, donc Closer. Et je suis très content en fait de pouvoir montrer d'autres facettes de la musique de Joy Division à travers ce livre. Alors pour rentrer un petit peu plus dans l'ambiance, je vous propose qu'on écoute tout de suite le premier morceau de Closer qui s'appelle Atrocity Exhibition. Voilà, ça va nous mettre dans l'ambiance et ça va vous aider à vous remettre dans le bain de à la fois toutes les promesses qu'il y a dans cet album, des expérimentations sonores, une certaine ambiance, des références aussi littéraires et qui irriguent Joy Division et l'écriture de Ian Curtis. Et on se retrouve tout de suite après.
still exists. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside. This is the way, step inside.
We'll be right back. enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Ce qu'on n'entend pas sur les radios rock.
Alors comme je vous disais, ce qui m'intéressait en écrivant sur Closer de Joy Division, c'est de mettre de côté au maximum tout l'aspect tragique de Ian Curtis et éviter de voir forcément dans cet album uniquement des signes avant-coureurs, des alertes de l'irréparable qu'il allait commettre plus tard et de sa personnalité très troublée. J'ai préféré parler en fait des vivants et j'ai préféré parler aussi d'Ian Curtis vivant. Je disais que Atrocity Exhibition avait déjà des marques de ses influences littéraires. Le titre est une référence à la foire aux atrocités, à un roman du romancier américain J.G. Ballard, qui avait écrit Crash entre autres. Il faut savoir que Ian Curtis est très influencé par Kafka, par Dostoïevski, par des auteurs de SF, en fait, de la moitié du XXe siècle. Ça fait vraiment beaucoup partie de son ADN et de l'ADN du groupe sur les références, sur les ambiances qu'il peut créer, rien qu'avec sa voix et rien qu'avec les thématiques abordées. Donc il y a d'autres références comme ça à travers le disque. Je parlais des vivants, j'essaie aussi de rendre un maximum hommage dans mon livre, non seulement au groupe qui la façon dont il travaille, la façon dont il enregistre ce disque, mais aussi à l'entourage du groupe, qui est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entourage de Joy Division était complètement déterminant, comme dans beaucoup de cas, mais là il faut vraiment le souligner, parce qu'il y a une synergie autour du groupe qui a permis aussi que Joy Division ait un statut culte et soit autant connu en ayant une carrière finalement aussi courte à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui. Je pense notamment, et je parle dans le livre de Tony Wilson, qui est à l'époque une petite vedette locale d'une télévision du nord de l'Angleterre, d'une chaîne, dans ses émissions il fait passer des groupes et il fera passer Joy Division d'ailleurs à deux reprises, et qui a l'idée à ce moment là de créer un label. Ce label, ce sera Factory Records, et c'est un label qui met les prémices en fait de ce que va être l'indépendance musicale beaucoup plus tard. On peut aussi compter Rob Gretton, qui était un DJ local et aussi déjà un peu manager, et qui va manager Joy Division tant et si bien qu'il va finir par leur avoir des salaire hebdomadaire, chose assez rare pour être noté à l'époque. Donc quelqu'un qui s'est extrêmement bien débrouillé pour défendre et vendre la musique de Joy Division et réussir à les faire tourner au maximum. Et puis vous allez aussi avoir Peter Saville, qui est le graphiste de Unknown Pleasures et de Closer, et qui va être un très grand collaborateur du label Factory. On peut aussi compter bien entendu Martin Hannett, qui est l'ingénieur du son, qui est presque le cinquième membre du groupe, à qui on doit énormément du son de Joy Division tel qu'il nous arrive aujourd'hui, l'espace qu'il y a dedans, le fait que ce soit un mec un peu fou qui s'intéressait beaucoup aux progrès technologiques, aux machines. Il y avait les premières machines numériques en fait qui pouvaient recréer des effets numériquement, donc il avait énormément d'idées de production sonore qu'il a mise à profit avec Joy Division. Et il y a tout un entourage qui s'est créé autour de Joy Division. Et justement, puisqu'on parlait de son, puisqu'on parlait d'expérience, j'aimerais vous faire écouter un morceau qui est mon morceau préféré, qui s'appelle A Means to an End, qui a une patte assez surprenante dans l'album. C'est un des moments de lumière de l'album, parce que vous avez un espèce de balancement disco avec au milieu un pont très très lumineux qui vraiment tout d'un coup vous fait décoller. Et je trouve ça très intéressant dans la musique de Joy Division et avec la production de Martin Hannett, qu'on ait cette rencontre, ces contrastes de lumière et d'obscurité, et c'est pour ça que je vous invite à écouter ce titre avec en gardant un petit peu ça en tête.
Rights we left behind, we were
British Connection, just rock, just rock.
Alors j'ai parlé de l'entourage de Joy Division et on peut aussi maintenant parler du groupe lui-même. Voilà ces quatre garçons qui enregistrent un deuxième album, non pas à Manchester, non pas dans leur région locale, puisque plus exactement ils sont originaires de Macclesfield, une petite ville en périphérie de Manchester, mais qui vont aller au Britannia Studio à Londres, Britannia Studio qui appartiennent à Pink Floyd. Et donc ils vont se retrouver pendant deux semaines à se concentrer entièrement sur cet objectif de faire un deuxième album avec, comme dira le bassiste Peter Hook, la pression qui venait uniquement d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient, ils s'estimaient choyés, ils s'estimaient bien pris en charge par leur entourage, et ils pouvaient donc travailler dans des très bonnes conditions, ce qui fait que l'enregistrement s'est déroulé assez vite, assez simplement. 9 chansons plus 3 autres petits rejetons qui apparaîtront plus tard dans, à une autre occasion, dans des inédits, sont enregistrés à cette occasion-là. Certaines de ces chansons avaient déjà été jouées par le groupe en live les mois précédents, voire les années précédentes, et d'autres ont vraiment pris forme dans le studio sous les mains de Martin Annett, qui bien sûr avait énormément de suggestions autant sonores que d'arrangements. Donc vous avez énormément de claviers qui superposent. Il faut savoir que c'est un album de Joy Division où certaines chansons n'ont même pas de guitare, il y a toujours la basse, cette basse aussi reconnaissable de Peter Hook, qui va chercher des thèmes dans les aigus et qui parfois se fait beaucoup plus lourde aussi dans l'album. Et donc Joy Division et l'ingénieur du son vont expérimenter comme ça, vont même faire approcher des techniques qui sont maintenant la norme aujourd'hui quand on produit de la musique, empiler des couches de son pour avoir un effet plus gros, pour avoir un effet plus complet, et en même temps l'album va garder ce côté très éthéré, un côté vraiment avec beaucoup d'espace. Et tant et si bien qu'après sa sortie, et malgré les conditions de sortie qu'on lui connaît, l'album va faire un très grand chemin dans le cœur à la fois du public et des artistes eux-mêmes. Il y a des gens comme George Michael qui citeront comme référence l'album Closer. Donc il faut savoir que dans les années 80, vous allez avoir énormément d'artistes qui vont aussi se réclamer de ces expérimentations. Martin Annett, qui de son côté va travailler notamment avec U2, avec New Order, donc aussi New Order qui est le groupe qui viendra après Joy Division avec les membres survivants, et avec les Happy Mondays, et les Happy Mondays qui sont un groupe effectivement de Manchester, et qui vont lancer toute cette phase Madchester où pendant les années 80, et en l'absence de Ian Curtis, la Factory et tous les gens qui gravitent autour vont faire évoluer un son beaucoup plus acide, beaucoup plus dansant, en tout cas quelque chose de beaucoup plus électro. Et pour revenir à Joy Division, moi je vais vous laisser avec un dernier titre qui s'appelle Decades, qui est le dernier titre de l'album, qui lui aussi a une ambiance très très particulière et une très belle écriture, parce que c'est une chanson qu'on peut limite jouer à la guitare acoustique, tellement elle est simple, immédiate, accessible, mais qui bénéficie de tous ces arrangements incroyables et qui vous font vivre un espèce de voyage dans l'éternité, et pas forcément avec une ambiance noire, mais aussi quelque chose effectivement de très apaisé, ce que peut aussi nous suggérer la pochette de l'album Closer. Certes il y a du deuil, certes il y a la mort qui rôde, mais aussi un sens de la consolation, quelque chose de très très humain, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché en fait quand j'ai écrit sur cet album. Que ce soit les humains qui travaillent, les humains qui font de la musique, les humains qui créent des choses et qui permettent qu'émergent de nouvelles créations. Et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on retienne de l'album, c'est qu'il y a beaucoup de vie et de lumière dans Closer, et qu'on peut y apprécier le travail et l'évolution musicale d'un groupe. Et ça, j'espère vraiment que mon livre, donc Joy Division Closer aux éditions Densité Collection Discogonie, ça vous donnera envie d'avoir un autre regard en le lisant sur Closer. Merci à tous, merci British Connection, et je vous dis à très vite.
Young man. Thank you. c'est la série live. Deux morceaux en concert dans British Connection.
Deux titres enregistrés en France. Le premier, Berrerie Noire, Pavillon 36, avril 1987. Casey, Mano Negra, King Kong 5, 31-1991, Villeurbanne.
Ça s'appelle Pavillon 36. Et c'est dédié à tous les locataires du Pavillon 36 dans le monde. Contre l'internement psychiatrique arbitraire.